J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt, l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107 FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Palabre en forêt sur Radio Bartas 107 FM. Bonjour Virginie.
Bonjour Margot, bonjour à toutes, à tous.
Alors de quoi on va parler aujourd'hui ?
Eh bien nous sommes en décembre, l'hiver arrive et alors bien sûr on va parler de bois et de chauffage. Et pour ceci, on va rencontrer Nicolas Lelon, qui est technicien à la mission chaleur renouvelable au syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Lozère. Et ensuite, on rejoindra Aymeric Sulman du Parc national des Cévennes pour une émission sur des petits insectes. Il nous dira tout à l'heure.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter l'émission du SDE de la Lozère et notamment la mission chaleur renouvelable sur laquelle tu travailles ?
Donc le SDE de la Lozère intervient sur différents domaines, sur l'ensemble du département de la Lozère au bénéfice des collectivités, toute la partie électrification rurale, l'éclairage public, la gestion des déchets, l'eau et l'assainissement, la voirie, et toute la partie, on va dire, plus transition énergétique, le développement de l'ensemble des énergies renouvelables, qu'elles soient électriques ou thermiques.
Merci. Et alors, par rapport au bois énergie, de quoi parle-t-on qu'on parle de bois énergie ?
Alors, le bois énergie, c'est la valorisation en tant que chaleur du bois, qui est la première énergie renouvelable thermique en France. Pour les particuliers, ça va être principalement du bois bûche ou du bois granulé dans des poêles à granulés. Et pour des installations un peu plus importantes, plus collectives, on va pouvoir valoriser du bois déchiqueté ou du granulé également dans ces installations.
Et sur la chaleur renouvelable, qu'est-ce que c'est ?
Souvent, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle en France principalement du développement de l'électrique, des énergies électriques, éolien, solaire. Nous, c'est un peu le pendant, mais niveau chaleur, puisque la chaleur, c'est quand même 50% des besoins d'énergie en France. Sur la chaleur renouvelable, nous, on va accompagner des projets de développement sur du bois énergie, de la géothermie, donc on récupère la chaleur de la terre, et également du solaire thermique, où là, on va chauffer de l'eau grâce au soleil.
Et voilà, le bois énergie, de quoi parle-t-on ?
Donc le bois énergie, c'est la valorisation en chaleur du bois, puisque vous savez que dans l'ensemble de la filière bois, il y a différents débouchés pour le bois. Les plus nobles, on va dire sur la partie ébénisterie, charpente, mais toutes ces planches sont carrées. Il va falloir aussi pouvoir valoriser toutes les parties arrondies, et la valorisation chaleur est une des valorisations pour ces parties du bois. On va également pouvoir du coup valoriser les bois de plus faible qualité, ou alors les premières éclaircies qui sont faites dans les différentes parcelles forestières, et pouvoir les valoriser directement en bois énergie.
Et quels sont les avantages et les inconvénients aussi du bois énergie ?
Sur la partie bois énergie, on va utiliser du coup une ressource qui est disponible sur le territoire, qui va permettre de faire travailler la filière bois et d'apporter de la valeur ajoutée sur le département, d'avoir un territoire un peu plus résilient, puisqu'on va travailler directement sur une ressource qui est locale. Ça va participer également à l'entretien des forêts, le développement du bois énergie, puisqu'on va on va pouvoir valoriser des petits bois ou des bois qui sont de moindre qualité. Ça va permettre du coup de développer à la fois l'emploi et bien sûr au niveau environnemental de travailler une énergie qui est plus renouvelable que les énergies plus conventionnelles, les énergies fossiles.
Dans le cadre de la charte forestière Sud-Lozère, les élus et partenaires ont identifié le développement de la filière bois-énergie comme un enjeu un peu prioritaire. Donc le SDE et la charte, on travaille ensemble. Il y a une infographie qui a été réalisée sur le bilan de la filière bois en Sud-Lozère, donc qui est disponible, si vous le souhaitez, sur le site internet des chartes forestières, forecosseven.fr. Sur cette infographie, on retrouve quelques données phares sur les forêts de notre territoire sud-Lozère. Donc on a par exemple le taux de boisement qui est de 60%, mais qui peut être assez contrasté sur le territoire, avec des taux de boisement jusqu'à 92% sur certaines communes sévenoles, et à l'inverse de 30% sur le Cosméjan. Mais on a quand même en moyenne énormément de bois sur le territoire, et avec une estimation qui avait été faite par le service forestier, donc de l'IGN, 19% de la ressource est de qualité bois-énergie ou bois-industrie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valoriser de meilleure manière ces bois-là. On ne peut pas faire du bois de charpente, tout ce genre de choses, la qualité ne le permet pas. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un vrai potentiel sur le territoire. Et est-ce que tu peux nous donner des informations plus sur le côté entreprise ou où on en est aujourd'hui sur le Sud-Lozère en termes de filière bois-énergie ?
Je reprécise, on accompagne plutôt du coup l'ensemble des maîtres d'ouvrage, que ce soit public ou privé, on n'accompagne pas les particuliers. Donc notre observatoire reprend uniquement les installations qui sont sur ce périmètre. On a sur les installations collectives une quarantaine d'installations aujourd'hui, 12 publics, 14 particuliers, enfin quand je dis particuliers, plutôt agri, typé agri, et 4 privés d'entreprises ou associations qui représentent au total 2 gigawatts de puissance installée. Et 4 gigawattheures de production d'énergie renouvelable. Ça représente environ plus de 3 millions d'euros d'investissement au total, avec 1 million de subventions qui ont pu être mobilisées pour ces installations.
Et est-ce qu'il y a encore la place de développer un peu ce bois énergie sur le territoire ?
Oui, on travaille aujourd'hui sur des projets, on va dire, de petits réseaux de chaleur sur quelques collectivités du territoire. Pour du coup alimenter différents bâtiments publics, donc des réseaux de chaleur publics. Il y a également des installations qui sont plutôt dédiées à certains bâtiments qui peuvent être plus excentrés, dont on n'a pas forcément l'opportunité de mutualiser l'installation de production.
Et est-ce que tu peux nous parler d'un exemple de réseau de chaleur sur le territoire ?
On a sur le territoire plusieurs réseaux de chaleur communaux, dont par exemple Vialas, qui alimente à la fois le bâtiment le bâtiment de la mairie et d'une salle, plus de la bibliothèque. Et en face, il y a le collège également qui est alimenté, plus différents logements communaux. Et c'est une installation au bois déchiqueté.
Oui. Et on peut préciser que l'approvisionnement vient de la plateforme Bois Énergie qui se trouve sur le territoire de la Charte forestière Pays Cévennes, juste à côté, quoi.
À Concoul. Et,
voilà, ouais. À Concoul. Et donc, la boucle est bouclée, un circuit de proximité.
Et du coup, est-ce que les communes, elles peuvent bénéficier d'aide quand elles mettent en place ces réseaux de chaleur pour aider à financer ce genre de projet ?
Donc la mission chaleur renouvelable du SDE est lauréat d'un appel à projet de l'ADEME et opérateur territorial sur le développement de la chaleur renouvelable. Et à ce titre, on monte les dossiers de financement ADEME, et on peut également, si nécessaire, rechercher du cofinancement région. Et on a également la gestion déléguée des fonds de l'ADEME, ce qui permet, nous, de directement, avec l'ingénieur de l'ADEME, de voter sur le territoire les aides, d'être un peu plus réactif et d'avoir un seul interlocuteur entre la mission qui accompagne et, on va dire, l'opérateur qui vote les financements et qui directement verse les subventions auprès des bénéficiaires.
On peut peut-être rappeler rapidement à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que l'ADEME ?
L'ADEME, c'est l'Agence de la Transition Énergétique, de sa nouvelle appellation, qui est là pour à la fois apporter de l'expertise dans tous les domaines de la transition énergétique et également de mettre en place des appels à projets pour des financements de différentes opérations, dont le fonds chaleur de l'ADEME, qui lui est là pour développer des opérations de développement de la chaleur renouvelable.
Et cette année, par rapport aux granulés de bois, on a vu les prix beaucoup augmenter et une pénurie également. Comment on l'explique ?
C'est un peu l'effet papier toilette et moutarde. C'est-à-dire que début d'année, février-mars, quand la crise mondiale un peu en Ukraine est arrivée, il y a eu des plus voilà, pas mal de craintes en France d'avoir une augmentation de l'ensemble des énergies, dont les énergies renouvelables. Et il était annoncé dès ce moment-là que le prix du granulé allait augmenter. Donc les unités de production en France qui ont l'habitude à partir de cette période-là de constituer leur stock pour le démarrage de la saison de chauffe suivante ont vu leur vente exploser puisque tout le monde a essayé d'anticiper cette augmentation et ayant peur de la pénurie a commandé, ce qui fait que les producteurs n'ont pas réussi à constituer leur stock pour le démarrage de la saison suivante. Et donc sur ce qu'ils ont réussi à produire entre on va dire mars et juillet-août où généralement les revendeurs font leur livraison, ils ont essayé de satisfaire tout le monde et donc du coup on livrait moins à chacun des revendeurs. Non, c'est voilà, si les revendeurs commandaient deux camions, ils en livraient qu'un seul. Et donc du coup pour les vendeurs, il y avait pénurie. Aujourd'hui, l'ensemble des unités de production en France sur une production de 12 mois peuvent satisfaire l'ensemble de la consommation de l'ensemble des unités de granulés. Voilà, pour la question pénurie, on va dire, je pense que c'est en train de se régler en ce moment, puisque les stocks ayant été constitués par les unités consommatrices, les unités qui produisent en ce moment peuvent du coup satisfaire les demandes pour ceux qui n'avaient pas forcément anticipé cette difficulté. Donc pour moi, il y a ça va se résorber. Et du coup, l'influence sur le prix aussi va légèrement se résorber. Puisqu'effectivement, le marché de l'offre et de la demande faisant, effectivement, les prix ont augmenté sur ce phénomène-là, d'anticipation, on va dire, des consommations de la saison suivante, mais également sur le fait que pour les unités de production, il y a aussi une augmentation du coût. Le coût des énergies fossiles et électriques ayant augmenté, pour produire du granulé, il faut faire fonctionner une usine qui a besoin d'électricité pour la mener jusqu'au revendeur, jusqu'au client final, il faut le transporter par des camions qui consomment du gazole. Du coup, il y a aussi, on va dire, une augmentation du coût de production et de transport pour les fabricants. Voilà, ce qui peut expliquer une partie de l'augmentation du coût. L'autre partie, c'est plutôt le contexte, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur la partie anticipation et crainte d'une pénurie qui a provoqué les difficultés, effectivement, chez les revendeurs.
Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, la situation, elle est plutôt sur une voie d'amélioration. Et selon toi, c'est toujours avantageux d'opter pour un système de chauffage, un chauffage bois. C'est quand même une bonne solution.
Vu les prix en face des énergies fossiles, on est toujours sur un delta qui reste un peu le même, c'est-à-dire qu'on a toujours une énergie bois qui reste moins chère que les énergies fossiles. Donc oui, le prix a augmenté de façon, on va dire, contextuelle là sur le début de l'automne. Je pense que ça va se résorber sur l'hiver, mais on reste toujours sur des prix plus avantageux que les énergies fossiles, qui eux dont les événements internationaux ont plus d'impact, on va dire, sur le prix, avec des variations de prix plus volatiles, qu'on a moins sur les... Même si on est dans un contexte un peu particulier, qu'on a moins sur les produits bois. Le bois déchiqueté aurait augmenté, selon nos dernières enquêtes auprès des approvisionneurs, d'environ 20 à 30%. Donc là, ça reste aussi de l'augmentation, on va dire, plus raisonnable. Et on est, comme je le rappelle, on est sur de la valeur ajoutée sur le territoire et... On fait bosser la filière et on est sur de la chaleur renouvelable. Aussi des avantages qu'il faut entendre quand on choisit cette solution.
Est-ce que tu veux nous faire une dernière précision sur la filière bois-énergie du sud de Lozère ?
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'installations, on va dire, plus collectives, puisque nous, on accompagne les publics, les installations des collectivités publiques et des entreprises du secteur privé, des associations. On n'a pas parlé des installations qui sont chez les particuliers, puisqu'on, sur le territoire, il y a quand même 50% des particuliers qui se chauffent au bois. Si aujourd'hui ils souhaitent être accompagnés dans le renouvellement de leur mode de chauffage au bois, il y a également l'agence Lozère Énergie sur le département qui peut les accompagner. Voilà.
Ok, merci pour toutes ces informations et pour cette précision. Et Nicolas, du coup, on te dit au revoir et à la prochaine.
Au revoir. À la prochaine.
Merci. Vous êtes toujours sur Radio Bertha 107FM. C'est le moment de la pause musicale. Et bien pour les prochaines émissions, on vous propose de faire un petit clin d'œil à nos amis Jacqueline de l'émission Compte Goutte de Radio Bertha, Charline de l'émission Galaxy 45 et Marc de l'émission Open Bertha. Parce que Corto, notre célèbre technicien, nous a formés aux outils radio. Et donc on a pu se rencontrer. Et voilà, donc on on choisira nos musiques en fonction de petits clins d'œil du coup à nos acolytes. Et c'est pour ça qu'on va écouter Eddie Vedder avec Guaranteed. Petit clin d'œil là pour Marc.
Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead. I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Toujours sur Radio Bartas 107FM. Et maintenant, on retrouve Aymeric Sulmont et sa rubrique Plantes et animaux du bois, avec aujourd'hui un sujet qui va peut-être en faire frissonner certains.
Le bois, il est fait en gros de trois polymères. La biodiversité a besoin d'irrégularité en forêt.
Plantes et animaux des bois.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Et bonjour Aymeric Sulmont.
Bonjour.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Alors, je vous propose de vous parler des araignées. Mmh. Et le lien avec le sujet qu'on vient d'écouter sur le bois énergie.
Oui.
J'essaie de le trouver, mais il y en a un.
Ah.
Et si vous chauffez trop votre maison, ce qui n'est pas à la mode en ce moment, il faut être très économe, il faut être...
À 19 degrés.
Voilà, à 19 degrés, vous allez avoir beaucoup plus d'insectes dans votre maison, parce que si les maisons qui chauffent trop, ben vous faites sortir les mouches des placards, etc. Et si vous avez trop de mouches, naturellement arrive une flopée de prédateurs des mouches, dont les araignées. Donc, et ça vous fait peur, évidemment, la plupart d'entre vous ont peur des araignées. Et donc tout vous pousse à faire des économies d'énergie. Si vous voulez pas d'araignées dans la maison, chauffez pas trop votre maison, isolez bien votre maison.
Okay.
Voilà, c'est le petit lien que j'ai un peu tiré par les cheveux, mais voilà.
Bravo quand même.
Donc je reviens à mon sujet de base, les araignées. Pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que c'est un sujet effectivement qui fait peur, et sans doute que les araignées ont besoin de revenir un peu dans notre racheter un peu leur image qui est négative de bêtes sombres à huit pattes qui se baladent dans le noir et qui viennent nous chatouiller. Non, c'est pas ça. C'est un monde extrêmement diversifié avec très peu finalement d'espèces, en tout cas en France, qui sont dangereuses. Il y en a vraiment très très peu, souvent dans des habitats qu'on fréquente très peu, ou alors au contraire qu'on fréquente les fameuses veuves noires là, qu'on retrouve que dans le sud de la France ou en Corse, vivent parfois à proximité de l'homme, mais dans des façons de vivre qui rendent les rencontres très très rares, en fait. Et il y a pas de mort d'araignées en France, alors qu'il y en a beaucoup par les guêpes.
Alors, c'est-à-dire que les grosses araignées là que je retrouve chez moi, je crois que c'est des tégénaires. Oui. Elles risquent pas de me faire de mal.
Non. Il y a pas de risque. Elles peuvent mordre si tu les coinces dans ta main et que tu fais exprès d'aller les embêter.
Ok, mais on n'en est pas là.
C'est une défense. Et c'est plutôt des araignées assez inoffensives et très utiles dans les caves pour nettoyer toutes les mouches et autres bestioles qui traînent. Et c'est dans les tégénaires qu'on a les araignées les plus grandes, par contre, en France et immenses. En Cévennes. Moi, j'en ai mesuré qui faisait 13 cm d'envergure. C'est assez effrayant, mais c'est tout à fait inoffensif. Bon, pour faire un petit descriptif des araignées, on a plein de différences entre les araignées et les insectes. C'est pas un insecte, l'araignée. La première différence, c'est le nombre de pattes. On est d'accord, il y a 8 pattes. Mais il n'y a pas d'antenne aussi chez les araignées. Si vous cherchez, il n'y a pas d'antenne. Par contre, elles ont beaucoup de poils sensitifs sur les pattes qui vont leur servir à la fois de détecteurs de vibrations, ça va leur servir de nez, d'oreilles, de tout ce qui permet en fait de détecter des proies. Elles ont tous ces poils qu'elles ont, qui font un peu peur. Ça leur sert de nez, d'oreilles, presque Dieu aussi, mais elles ont aussi, à la différence des insectes qui ont en général des yeux à facettes, elles ont des yeux qui sont différents, qui sont au nombre de 2 à 8. La plupart, c'est entre 6 et 8. Et qui sont placés devant l'araignée ou parfois sur les côtés. Donc ça leur donne une vision à plus de 180 degrés, presque 300 degrés. Ça dépend des araignées. Enfin bon, elles fabriquent des soies, mais on verra qu'elles fabriquent pas toutes de la soie et pas de la même manière. Enfin, il y a une grande diversité de soies, jusqu'à 7 soies différentes selon l'usage. Si c'est pour emballer une proie, si c'est pour emballer la semence du mâle, si c'est pour s'accrocher un fil, si c'est pour développer un fil d'Ariane pour explorer. Enfin, il y a vraiment beaucoup de soies. Et si c'est intéressant à étudier les araignées, c'est que la plupart sont évidemment des prédatrices. Et si elles sont très diversifiées dans un environnement, c'est qu'elles vont être un peu une sorte de sentinelle de cet environnement. La diversité des prédateurs est directement liée dans le monde en général à la diversité des proies. Si vous avez une forêt où il n'y a pas de prédateurs, mais c'est une forêt qui fonctionne mal. Et donc, on peut dire la même chose avec le cortège d'araignées qu'il y a en forêt ou dans une prairie. S'il y en a très peu, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement dans la forêt ou dans la prairie. Donc, c'est quand même un indicateur intéressant. Je vous donne quelques chiffres. Dans le monde, il y a 48 000 espèces d'araignées. C'est monstrueux. Et chaque année, ils s'en trouvent des dizaines et des dizaines parce que c'est un monde qui est assez difficile à étudier et il faut souvent avoir recours à la dissection des pièces génitales pour comprendre si c'est telle araignée ou telle autre. Et en France, on en a quand même 1600. Donc ça laisse ce qui veut dire que comme on a entre 40 et 50% de la biodiversité en général dans le parc des Cévennes, on en aurait, si on estime comme ça à vue d'œil, entre 600 et 700 à rechercher en Cévennes.
Et ben, t'as du
actuellement, les inventaires qui ont été faits par des spécialistes tournent autour de entre 250 et 300.
Ah oui.
Donc on est loin du compte, on est à moins de la moitié en fait de l'inventaire des araignées. Donc c'est un domaine à explorer.
Et tu peux nous expliquer justement quand vous partez à la recherche d'araignées, comment faites-vous sur le terrain?
Alors, on n'en est pas encore à ce stade. Pour l'instant, on étudie d'autres groupes d'insectes, dont les coléoptères, oui. les criquets, les papillons, etc. Et nos méthodes d'études, parfois, nous amènent à récolter des araignées. Et donc, des fois, on les transmet à des spécialistes, notamment là, pour les piégeages coléoptères, on découvre des araignées mortes dans nos pièges et on les transmet à des spécialistes. Ça, c'est une méthode de transmission. On fait pas mal de photos, mais toutes les araignées ne se prêtent pas à la détermination en photo. Et du coup, après, c'est vraiment un travail qui est particulier avec des aspirateurs insectes, avec des filets fauchoirs. Le filet fauchoir, c'est comme un filet à papillon, mais plus solide, et on fauche la prairie. Et là, on récolte des dizaines et des dizaines d'araignées. Et il y a aussi la méthode de taper dans des branches d'arbres pour faire tomber tout ce qui y traîne. Ça s'appelle la méthode du parapluie japonais. C'est un parapluie qu'on pose en dessous d'une branche et on tape la branche avec les enfants, ça marche très bien. Et on trouve des quantités d'araignées là-dedans. Donc tout ça n'est pas encore valorisé et c'est un monde à explorer qui mériterait vraiment d'être exploré pour toutes les raisons dont j'ai parlé. Et là où j'avais envie de vous donner envie en fait de s'intéresser aux araignées, et d'abord je vous donnerai peut-être deux références de bouquins. Il y en a un qui est paru en français aux éditions Duno et qui s'appelle Araignées et autres arachnides, qui est écrit par les deux spécialistes du genre et qui est fantastique pour donner envie de s'intéresser aux araignées. Et je vais vous sortir quelques anecdotes sur ces araignées que je trouve assez passionnantes et pourquoi elles sont intéressantes. Alors d'abord parce qu'on peut faire de nombreux parallèles entre leur comportement ou leurs adaptations avec l'homme, et ça je trouve ça amusant. Notamment il y a des araignées qui se prennent pour des coccinelles. Bon, chez les humains c'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver. Des araignées qui ressemblent très fort à une coccinelle, et je sais pas si vous êtes baladé sur les crêtes du Mont Lozère, mais il y en a une qui ressemble, qu'on appelle l'araignée coccinelle, et qui évoque tout à fait la forme d'une coccinelle, en tout cas le décor d'une coccinelle, rouge avec quatre points noirs sur le dos. Et c'est probablement une, on peut pas dire une adaptation, mais une sélection naturelle qui fait que une araignée qui a cette décoration-là ressemble tellement à une coccinelle qui est plus ou moins toxique ou pas de bon goût pour les oiseaux, fait qu'elle est laissée tranquille. Elle a beau être très voyante, elle est laissée tranquille. Ça c'est voilà un exemple. Il y en a qui se prennent tout à fait pour des caméléons, c'est-à-dire qu'elles passent d'une fleur à l'autre, elles vont devenir roses si elles sont sur une fleur rose et devenir jaunes si c'est une fleur jaune. C'est la fameuse araignée crabe qui, pour la même espèce, va développer des coloris très différents en quelques heures en se posant sur sa fleur et en attendant sa proie. Il y a une autre araignée qui fait du sky surf. Vous savez ce que c'est? Oula, le sky surf?
Ouais, oui.
Le sky surf, c'est ceux qui ont un cerf-volant,
oui,
et qui s'envolent avec, okay, et qui font des figures. Alors on pourrait dire ça d'une certaine araignée. Pour se disséminer, la jeune araignée lance un fil dans l'air très léger. Quand il y a assez de vent, prend suffisamment de vent et permet à l'araignée de s'envoler au loin. Et elle peut comme ça coloniser des îles parfois très lointaines un sky surf qui peut durer des heures et des heures. Wow. Donc voilà une araignée qui joue au sky surf. Et ça s'appelle le ballooning. Ah. C'est une forme de dissémination des araignées qui est très très utilisée. Il y en a qui se déguisent en fourmis, ça c'est un grand classique. Il y a quelques araignées qui se déguisent en fourmis, on en a peu en France, il y en a une, et dans le monde il y en a beaucoup d'autres, et qui ont toutes les caractéristiques de fourmis, au point que les deux pattes avant ressemblent à des antennes, que le corps a pris une forme de fourmi, et qu'elles vivent à côté des fourmilières pour bénéficier de la protection, et en même temps, comme elles passent pour des fourmis, elles vont se nourrir discrètement de larves, etc., de fourmis.
Oui, bien.
Elles sont logées, nourries, enfin c'est le pied, quoi. Il y en a qui font des danses. Alors ça c'est très particulier, j'expliquerai pourquoi elles font des danses juste après. Mais les mâles, pour plaire à leurs femelles, vont avoir une danse très particulière, une parade comme on observe chez les oiseaux, chez d'autres animaux. Et il y a des groupes d'araignées qui sont tellement difficiles à reconnaître que les spécialistes, en fait, observent l'araignée en train de danser, décrivent cette danse, et elle est en général spécifique de l'araignée. Après, ils l'attrapent et ils vont disséquer, etc. Mais ils se sont rendus compte que chaque araignée, un peu comme chaque région de France,
oui,
a sa propre danse qui est utilisée pour plaire à la femelle. Et c'est un peu comme le costarouat pour le breton, la tarentelle pour les Italiens, ou le branle d'osso pour ceux qui sont du sud-ouest. Enfin, chacun a sa danse, et je trouve ça assez remarquable chez les araignées. Il y a une autre araignée fascinante qui joue du lasso, qui fait du cow-boy, en fait, pour attraper ses proies. C'est-à-dire, au lieu de faire une belle toile d'araignée, elle a un petit lasso collant au bout, et qu'elle jette sur sa proie quand elle passe. Elle se cache à l'affût et elle lui jette dessus. Et il y a cette fameuse araignée, l'araignée cracheuse que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une panthère, hein, mais à huit pattes. Et donc, elle a vraiment une robe de panthère. Et elle, au lieu de mordre sa proie, elle lui éjecte comme un cobra cacheur. Elle lui éjecte à plusieurs centimètres et très rapidement une espèce de boule de glu qui va immobiliser la proie. Et ensuite, elle lui court après et la mord à ce moment-là pour la digérer. Enfin, c'est tout à fait atroce comme scénario, mais c'est voilà, c'est une araignée. Dernier point qui qui fait peur notamment à la junte masculine, c'est le cannibalisme des femelles. C'est-à-dire que beaucoup d'espèces d'araignées ont cette fâcheuse tendance à manger le mâle comme le fait la mante religieuse à la fin de l'accouplement. Et pour éviter ce drame, il y a beaucoup de mâles qui ont inventé plein de stratagèmes pour essayer d'éviter ce triste sort. Et il y en a un qui consiste à bloquer, le mâle a un système pour bloquer les chélicères, c'est-à-dire les deux mâchoires où il y a le venin de la femelle. Il la bloque pendant l'accouplement et pour faire son affaire et pouvoir essayer de partir avant qu'elle se réveille, entre guillemets. Il y en a qui lui font un cadeau, c'est sympa. Mais ça a été vu, ça a été décrit, il y en a qui font un cadeau, c'est-à-dire emballé de soie, de temps en temps ils mettent une vraie proie de temps, et de temps en temps c'est juste un caillou discrètement qui occupe l'araignée pendant l'accouplement, elle déballe son cadeau et lui s'occupe d'elle, et voilà, et ensuite il essaie de s'échapper au plus vite. Donc il y en a qui dansent comme j'ai vu, hein, comme que j'ai déjà décrit, ils font une danse pour plaire à la femelle, il y en a qui font du tambour. Vraiment du tambour pour bien expliquer à la femelle je suis un mâle gentil sans défense qui vient te rendre visite. Enfin, c'est tout un espèce de... Et puis il y en a qui ont des stratagèmes pas très recommandables qui vont féconder la femelle juste après sa mue, c'est-à-dire au moment où elle est toute faible, toute molle. Le mâle arrive à ce moment-là, il détecte cette période-là et il féconde la femelle, toujours dans l'idée de pas se faire manger. Évidemment, la plupart du temps, ils essaient de courir à toute vitesse après avoir fait leur affaire. Et la plupart du temps, enfin, ça arrive pour beaucoup d'espèces, la femelle, ni une ni deux, les croque. Et c'est une adaptation, en fait, qui probablement aide l'araignée à d'abord bien nourrir ses œufs. Et puis, c'est dans la sélection naturelle, ça a dû aider l'araignée à tout simplement mieux élever ses petits et avoir une meilleure reproduction. Voilà, donc ça, c'est le triste destin des mâles, mais pas tous.
Corto avait une question, il me semble.
J'avais même deux, du coup.
Ah, voilà. Super.
Bah, déjà, il paraît que les araignées, c'est signe d'un habitat sain, je crois. Est-ce que c'est une légende ou pas, ça, tu sais?
C'est-à-dire, si dans ta maison, il y a des araignées, ton habitat est sain? J'ai envie de dire oui, parce que quand t'as une biodiversité riche dans ton jardin ou dans ta maison, on peut dire... Mais bon, c'est peut-être pas le cas de certains, le point de vue de certaines ménagères qui font un synonyme de l'étoile d'araignée, c'est sale, ça attire les mouches, tout ça. Enfin, c'est un gros débat, ça. Moi-même, je suis tendance à aspirer de temps en temps l'étoile, parce que c'est vrai que ça, au bout d'un moment, c'était envahi.
Oui,
quoi,
mais...
oui, il me semble qu'il y a une légende là-dessus. Il faudra creuser la question, en tout cas.
Et votre question, c'était par rapport aux mygales, aux guêpes tueuses de mygales. Alors, qu'est-ce que c'est?
Alors, parmi les ennemis des araignées, il y a évidemment l'aspirateur des ménagères, ça c'est sûr. Il y a l'homogénéisation des habitats, ça c'est de loin le pire. C'est-à-dire que quand on va dans nos forêts ou dans nos prairies, machin, et qu'on a des milieux qui sont très homogènes, des grandes prairies surfertilisées ou des grandes forêts où il y a que la même espèce, c'est le meilleur moyen de limiter la diversité des araignées. Et puis, il y a des moyens naturels de limiter les araignées, c'est d'avoir toute une ribambelle de guêpes, puisque beaucoup de guêpes sont des prédatrices d'araignées. En France, comme dans le monde, donc en France, on a des petites guêpes qui s'attaquent à des araignées assez grosses, et elles vont les paralyser, elles les piquent assez facilement, elles arrivent à détourner leur défense, à passer au-dessus et à piquer. Et une fois paralysée, l'araignée est emmenée dans une galerie que la guêpe a creusée. Et là-dedans, l'araignée reste vivante, mais paralysée. Et c'est à ce moment-là que la guêpe pond un œuf dans l'araignée. Et cet œuf va se développer au détriment de l'araignée, donc elle va manger vivante l'araignée dans, au fond de sa galerie, à l'abri. Et cette stratégie est développée dans, par énormément d'araignées dans le monde, et la fameuse mygale est attaquée par une guêpe qui est tout aussi énorme qu'elle, qui c'est un hyménoptère, enfin une grande guêpe qui fait 5 à 6 centimètres de long, qui est bleu métallique. C'est assez effrayant de voir ça. Et voilà, enfin c'est des choses qui arrivent. Voilà, les guêpes sont assez effrayantes, encore plus effrayantes peut-être que les araignées. Il faudra en parler un jour parce que les guêpes sont aussi un domaine fascinant et très très diversifié de la nature.
D'accord. Et alors une dernière petite question cette année en lisière de forêt, j'ai pu remarquer souvent plein de toiles d'araignées. Voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça indique?
Alors moi je suis pas encore de loin un spécialiste sur les araignées, mais on peut déterminer au moins les familles des araignées rien qu'en regardant leur toile. Donc si tu fais une belle photo de la toile, tu la transmets à un spécialiste, tu te diras, bon, ça c'est tel groupe d'araignées, etc.
Bon, moi je la transmets à Aymeric.
Non, non. je l'enverrai à un spécialiste.
Okay.
Mais voilà, donc, tu peux déterminer les toiles. Et ensuite, effectivement, les toiles sont très saisonnières. Il y a vraiment des saisons où il y a tel et tel type de toiles qui débarquent, notamment en fin d'été. Et qui...
D'accord, mais c'est plutôt un bon signe quoi, de voir plein de toiles d'araignées comme ça.
Bah, ça veut dire que le milieu produit énormément de proies.
Ouais.
Et donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt bon signe de biodiversité. Ouais, je dirais ça.
Merci, Aymeric Silmon.
À bientôt.
À bientôt.
Salut, salut. Vous êtes toujours sur Radio Bartas 107FM. On vous dit à la prochaine et merci d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part par mail à l'adresse de Corto. Donc, corto@radiobartas.net. À bientôt.
À bientôt.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de haute futée.
Palabre en forêt,
l'émission Lozéro-Gardoise
qui dévoile et décrypte
l'actualité de nos forêts et de la filière bois,
les initiatives locales
et les actions d'ici et d'ailleurs sur la forêt.
Rendez-vous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Bartas
107FM.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.